Micro Méga, Patrick Chompré.
Bonjour et bienvenue, c'est l'actualité scientifique de la semaine avec vous, Caroline Lachowski, bonjour.
Bonjour Patrick.
Avec aujourd'hui les derniers résultats scientifiques du satellite Corot, on a trouvé une super Terre, invité Alfred Vidal-Majdar, astrophysicien. En deuxième partie d'émission autour du film Espèce d'espèce, la classification des êtres vivants et l'évolution de la vie sur Terre de manière ludique et scientifique, nous serons avec les auteurs du film, chercheurs du Nord et chercheurs du Sud, enfin reliés avec la création d'une nouvelle unité de recherche internationale. Et puis dans quelques instants, à quoi ressemble l'univers? Les ordinateurs les plus puissants de la planète essayent de répondre à la question. Bienvenue. Micro-méga. Mais tout de suite, quelques infos que nous avons triées spécialement pour vous dans l'infosphère.
C'est la faute à la sérotonine si des criquets pèlerins d'ordinaire solitaires se transforment parfois en essaims dévastateurs. Plus de 2000 ans après la première mention de ce fléau dans la Bible, des chercheurs britanniques ont enfin compris pourquoi les criquets verts se métamorphosaient dans certaines conditions climatiques particulières en essaims de millions de criquets jaunes dévorant tout sur leur passage. Derrière ce changement de couleur et de comportement spectaculaire se cache une molécule, la sérotonine, neuromédiateur du système nerveux utilisé chez l'homme pour combattre la dépression, sauf que chez Monsieur Criquet, la sérotonine, ça rend grégaire, ça supprime l'aversion pour les foules et ça vous transforme un timide criquet vert en une grosse bestiole jaunâtre qui ne se déplace plus qu'en groupe, en bande de quelques millions de créatures particulièrement dévastatrices pour tout ce qui pousse. Une découverte qui devrait permettre, selon la revue Science qu'il a publiée, de pouvoir à terme peut-être lutter plus efficacement contre ce fléau.
C'est, selon nous, l'information scientifique de la semaine. Une planète à peine plus grosse que la Terre a été découverte par le satellite Corot dans un système solaire éloigné de 400 000 années-lumière. C'est une première dans l'histoire de l'astronomie. Alors la chose s'appelle EXO-7b. C'est une super Terre. Entendez par là qu'elle fait partie de la même famille que notre planète, donc les planètes rocheuses. La ressemblance s'arrête là. Sur EXO-7b, la température est d'environ 1000-1500 degrés et le sol recouvert de lave en fusion. Mais c'est un pas important, ça veut dire qu'à partir de maintenant, dans les années qui viennent, on va régulièrement découvrir des planètes sœurs de la nôtre et donc chercher des traces biologiques, même si elles sont très éloignées. Autant vous dire que les astrophysiciens du programme Corot que j'ai rencontré dans la semaine avaient le sourire aux lèvres.
Retour sur Terre, en Colombie, avec la découverte de 10 nouvelles espèces d'amphibiens. Une grenouille aux cuisses orange, 3 autres dites de verre parce qu'elles ont la peau quasiment transparente, plusieurs espèces de grenouilles tropicales et venimeuses, ainsi qu'une salamandre qui n'avait jamais été observée ailleurs que dans ces montagnes de Takarkuna, à la frontière avec le Panama. Une région à la biodiversité particulièrement riche, puisque les chercheurs y ont aussi recensé au cours de cette expédition de nombreux tapirs, plusieurs espèces de singes très rares, un petit cochon sauvage aux lèvres blanches, ainsi que de nombreuses espèces d'oiseaux endémiques et quelques reptiles non encore identifiés. Ce qui prouve qu'il reste sur Terre, dans ce coin de Colombie comme ailleurs, de nombreuses espèces à découvrir mais aussi à protéger, les amphibiens notamment, particulièrement menacés avec leur peau perméable et très sensible aux dégradations, qui sont pourtant considérés par les scientifiques comme d'excellents indicateurs de l'état de l'environnement.
Denis Van Verbeek et Vincent Gaulier, vous êtes donc les auteurs de ce film dont on va parler en deuxième partie d'émission, Espèce d'espèce, mais quand même une réaction, parce que là on touche à votre domaine avec cette info donnée par Caroline, une réaction.
En fait, c'est plus généralement le nombre d'espèces qu'on découvre tous les ans, d'après l'un des intervenants du film, Philippe Boucher, c'est environ 16 000 espèces. Si on enlève celles qui en fait ont déjà été découvertes et vu les corrections, on est à environ 13 000 espèces. Et en fait, c'est encore une activité très très importante de ce travail autour de la taxinomie et autour de la compréhension de ce que c'est que le vivant. L'inventaire est une activité très importante.
Et en même temps, dans votre film Espèce d'espèce, ce même Philippe Boucher, chercheur, met en en avant ce paradoxe de la biodiversité qui risque au fond de disparaître avant même d'avoir été recensé par l'homme, Denis Van Der Beek.
Oui, ce qui est dit effectivement, c'est qu'il y a des milliers d'espèces qui vont disparaître avant d'être découvertes. En fait, il y a 10 ou 100 fois plus d'espèces qui existent que d'espèces qu'on connaît. Donc parmi toutes celles-là, au rythme d'extinction qui est le rythme actuel, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'espèces vont même pas être vues une fois par un scientifique. Et puis pour revenir sur l'idée, il y a encore des coins du monde où on trouve des espèces nouvelles, mais non seulement ça, mais même on en trouve partout, puisque par exemple les archébactéries, qui sont une des branches du vivant qui a été découverte seulement dans les années 70, ben, les archébactéries, on en trouve dans nos estomacs. Donc c'est pas besoin d'aller très loin quoi, pour trouver des espèces
nouvelles. Juste avoir des bons
yeux,
quoi, en fait.
Voilà.
Hein.
Donc certaines espèces ne seront jamais connues par nous, en tout cas. C'est vertigineux.
L'astronomie nous procure souvent de belles images, galaxies, nébuleuses, vents solaires et tant d'autres. Mais jusqu'à présent, on ne voyait l'univers qu'en deux dimensions. Et aujourd'hui, eh bien, grâce à la puissance des nouveaux supercalculateurs, les scientifiques peuvent simuler la formation et l'évolution des astres avec assez de détails pour produire des images virtuelles en trois dimensions. Et ça, ça change tout. Résultat, c'est un film de 10 minutes en trois dimensions, donc que l'on regarde avec des lunettes spéciales sur le nez, très vertigineux, que l'on peut voir à Paris pour l'instant, au Palais de la Découverte, dans l'exposition Voyage au centre de la galaxie. Un film qui nous donne l'impression de voir l'univers se déployer sous nos yeux. Pierre-Olivier Lagage, chef du service d'astrophysique du CEA, nous emmène dans ce voyage.
Alors, on part déjà des premières fluctuations de matière au début de l'univers et on essaye de voir comment l'univers se structure, comment les galaxies se forment, comment les étoiles se forment et comment les planètes autour des étoiles se forment. Donc on connaît maintenant très bien, à partir d'observations, les petites graines de la structuration de l'univers, des galaxies et des étoiles. Et l'idée de cette simulation, c'est de partir de ces petites graines et de reproduire l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec ses galaxies, dans ses galaxies des étoiles et autour de ses étoiles des planètes. Évidemment, les calculateurs sont très puissants, mais pas encore assez puissants pour aller du début jusqu'à la fin complètement. Donc on le fait par plusieurs étapes. La première étape, c'est de former des galaxies. La deuxième étape, c'est de voir les collisions entre les galaxies. La troisième étape, c'est de voir dans les galaxies comment se forment les étoiles. Quatrième étape, c'est de regarder comment les planètes se forment autour des étoiles. Et la dernière partie, c'est de regarder les étoiles elles-mêmes, comment elles font un champ magnétique, notamment le Soleil.
Comment vous avez travaillé concrètement? Vous avez rentré toutes les données que vous connaissez, vous, astrophysicien, dans la machine pour créer ce film. Ensuite, vous avez donc lancé les machines pour faire des calculs adéquats.
Oui, exactement. On a maintenant les conditions initiales, on les connaît bien. On a depuis peu les grands calculateurs qui nous permettent de développer ces simulations. L'Europe et la France étaient très en retard, mais maintenant le retard a été rattrapé. Donc on a quelques collègues qui étaient aux États-Unis il y a quelques années, où l'Europe n'était pas encore présente dans les simulations. Ils sont revenus, et là on est vraiment capable d'utiliser au mieux ces grands calculateurs et de former ces galaxies, ces étoiles, ces planètes.
Qu'est-ce que ça vous apporte scientifiquement de voir ce film? C'est vrai que c'est très joli, hein, on voit ça en relief, on a l'impression d'être immergé dans l'univers. Super scientifiquement.
Alors, par exemple, il y a des observations qui étaient récentes. On voyait des galaxies lointaines qui avaient une forme avec des grumeaux à l'intérieur, qui formaient des étoiles. On ne comprenait pas pourquoi, avec les grands télescopes, on avait ces observations. Et la simulation numérique nous a montré qu'il y avait des flots de gaz froid, des filaments, qui rentrait dans la galaxie, l'alimentait pour former des étoiles. Et ça, c'est une découverte récente grâce aux simulations qui permettent de comprendre des observations. Et c'est un papier qui vient d'être publié dans la prestigieuse revue Nature il y a 15 jours. Et on est très content de cette explication à partir de simulations d'une observation qu'on ne comprenait pas.
Autrement dit, le fait de travailler comme ça aboutit à une publication scientifique.
Ah oui, c'est l'objet principal des simulations. Après, évidemment, il y a un aspect visualisation pour le grand public. Il faut qu'on fasse connaître nos travaux, c'est important. Mais l'essentiel quand même, c'est à partir des simulations, faire avancer notre connaissance du cosmos.
Il reste encore plein de mystères à résoudre sur l'univers. Là, en fait, on a presque l'impression qu'on le connaît, qu'on se promène dans l'univers. On sait bien qu'il y a des mystères énormes, matière noire, énergie noire, forme de l'univers.
Exactement. C'est-à-dire que les simulations, on est obligé de mettre 95% d'énergie sous forme de matière noire, d'énergie noire, et on ne sait pas du tout quelle est la nature de cette énergie noire, matière noire. Et ça, c'est un problème qui dépasse l'astrophysique, c'est un problème de physique fondamentale. Et par exemple, nos collègues de physique des particules sont en train d'essayer soit de produire de la matière noire dans les grands accélérateurs comme le LHC au CERN, donc on verra s'ils y arrivent ou pas, on ne sait pas du tout à quelle énergie il faut regarder, etc. Soit essayer de la détecter dans des expériences souterraines, par exemple dans le tunnel du Fréjus. Donc ils essayent de la détecter. Mais c'est vraiment un des grands mystères actuellement de la physique, on peut dire.
Passer maintenant dans la suite de ce film et de cette exposition au Palais de la Découverte.
Eh bien, comme c'est l'année mondiale de l'astrophysique, de l'astronomie, l'exposition va être itinérante, parce qu'il y a un aspect quand même très important pour nous, c'est que le public regarde le ciel. Parce qu'on apprend plein de choses dans le ciel, ne serait-ce qu'essayer de voir notre position dans l'univers. Enfin, et les gens regardent de moins en moins le ciel, parce que dans les grandes villes, on ne peut plus voir le ciel. Donc l'idée de cette année mondiale, c'est de refaire découvrir le ciel au maximum de personnes.
Et l'univers.
Et l'univers. Notamment avec tous les aspects, sommes-nous seuls dans l'univers, toutes ces questions-là, on commence à pouvoir avoir un début de réponse. On sait qu'il y a d'autres planètes autour d'autres étoiles, ce qu'on appelle les exoplanètes. Alors, dans un premier temps, on a vu les plus grosses, comme les Jupiter, les Saturne. On commence à voir des plus petites, et d'ailleurs le satellite Corot du CNES a permis de détecter des planètes pas très loin de planètes telles la Terre. Alors après, la question suivante, ça sera, est-ce que c'est dans une zone habitable? Qu'est-ce que c'est qu'une zone habitable? C'est une zone où il peut y avoir de l'eau liquide. On ne sait pas comment peut être la vie autour d'autres planètes, évidemment, on connaît que la nôtre. Mais c'est des sujets fantastiques, et on commence à pouvoir avoir des débuts de réponses. Par exemple, dans le futur, il y a des projets d'expérience qui vont pouvoir faire regarder l'atmosphère de ces planètes Terre, regarder s'il y a de l'ozone, regarder un certain nombre de signatures dites biologiques qui pourront donner des signes qu'il y a peut-être de la vie.
Pour l'instant, ces exoplanètes, on les devine plus qu'on les voit. Là, maintenant, il va falloir les connaître et découvrir, voir de quoi elles sont constituées.
Voilà, on les connaît plutôt par des aspects indirects. Leur influence sur l'étoile ou le fait que quand elles passent devant l'étoile, elles empêchent un petit peu la lumière de l'étoile de venir, donc on voit une petite diminution de flux. On commence à détecter, même à faire des images, enfin à la séparer de l'étoile de très grosses planètes, on commence, et dans le futur, on va faire de plus en plus d'images d'exoplanètes. Ça, c'est quelque chose qui vraiment est enthousiasmant. Et je travaille sur un instrument, le successeur du Hubble Space Telescope, qui s'appelle le JWST, qui va être lancé à l'horizon 2013. Et avec nos collègues de l'Observatoire de Meudon, on a mis un mode spécifique qui s'appelle un mode, entre guillemets, coronographique. À quoi ça sert? Quand on a une planète à côté d'une étoile, c'est très difficile de la détecter parce que l'étoile est très très brillante. Eh bien, l'idée, c'est d'éteindre l'étoile. Alors, il y a des techniques, hein, c'est pas éteindre l'étoile, c'est une façon de parler.
Optique.
Voilà, des techniques optiques à partir de masses coronographiques, etc. Mais on a bon espoir de pouvoir faire des premières images dans le domaine de l'infrarouge moyen d'exoplanètes géantes avec ce grand successeur du Hubble Space Telescope.
Merci Pierre-Olivier Lagage. Le film est donc visible dans cette exposition Voyage au centre de la galaxie au Palais de la Découverte à Paris, dans laquelle on propose aussi de faire l'expérience d'un trou noir. Alors faisons ensemble rapidement cette expérience avec Sacha Brun, qui est astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique.
Ah. Nous allons vivre ensemble dans cette exposition l'expérience du trou noir et vous allez me dire ce que ça vous fait.
D'accord.
À l'entrée, entrez et vivez l'expérience du trou noir. Cette attraction est déconseillée aux personnes sensibles, cardiaques, épileptiques et aux femmes enceintes. C'est pas votre cas.
Bon, non, ça va. Donc là, on est bien dans quelque chose de bien sombre. Et on voit des énergies sur un écran, des flashs. Et là, trou noir et du vent qui se développe, c'est assez bien fait quand même.
On est absorbé là, non?
Oui, on est absorbé. Je crois qu'on aurait plus mal si on tombait sur un vrai trou noir, quoi. Mais à part ça, l'expérience est réaliste.
Cela dit, au centre de la galaxie, il y a un trou noir.
Oui, mais il y a deux types de trous noirs dans l'univers. Il y a les trous noirs qui sont liés à la mort des étoiles massives, et puis il y a les trous noirs supermassifs qui sont plutôt liés à la formation des galaxies à partir du moment où l'univers s'est structuré, quoi. Mais les gens ont tendance à se méprendre sur les trous noirs parce qu'ils ont tendance à croire que à partir du moment où un trou noir est là, il absorberait tout ce qui est autour de lui. Mais en fait, c'est pas le cas. Le trou noir, il a une gravité comme le Soleil, et donc c'est pareil. On peut orbiter autour d'un trou noir, ce qui faut, c'est jamais traverser l'horizon. À partir du moment où on traverse l'horizon du trou noir, ben là c'est fini, on ne peut plus s'en échapper. C'est pas un grand aspirateur en permanence, mais dès qu'il y a de la matière qui s'approche, elle n'a pas suffisamment de vitesse, ça va tomber dessus et donc être avalé définitivement.
Expérience à faire au palais de la découverte. Merci Sacha Brun. Micro-méga, la science, c'est aussi sur Internet. Et Caroline, ce que vous avez trouvé cette semaine n'a pas l'air de vous faire un bon effet.
Mais j'en suis malade, Patrick. Comme des milliers d'utilisateurs d'Internet, je souffre de cyberchondrie. Voyons. Un terme créé par deux chercheurs en informatique américains et dérivé du mot hypochondrie. L'hypochondriaque, c'est celui, je cite le dictionnaire, qui a une tendance maladive à se préoccuper de sa santé et de ses maladies, souvent imaginaires. Eh bien, le cyberchondriaque, c'est pareil, mais en pire, parce qu'Internet, ça amplifie le problème. Ça multiplie les malades et les maladies imaginaires. En surfant sur des sites médicaux, on s'en trouve tout plein des maladies. Nos chercheurs, qui ont analysé les pratiques de plus d'un million d'internautes sur les sites médicaux, ont en effet constaté que les parcours de connexion sont en général assez similaires. Ils les qualifient d'ailleurs d'escalateurs. On commence par chercher des infos sur des symptômes assez courants, et puis au fur et à mesure de la consultation sur le web, on se connecte sur des sites qui traitent de pathologies de plus en plus graves. Et là, on découvre qu'on les a toutes, ces maladies souvent fatales. Faut dire qu'on ne le fait pas exprès. Prenons un exemple. Vous avez mal à la tête, vous allez voir ce qu'en disent les forums sur Internet. Vous tombez d'abord sur des sites de migraines. Bon, jusque-là, tout va bien. Et puis, au hasard d'un clic, vous découvrez que ça pourrait aussi correspondre au début d'une tumeur au cerveau. Ça vous titille, évidemment. Alors, vous voulez en savoir plus. Résultat des courses, vous êtes persuadé qu'il ne vous reste plus au mieux que 3 semaines à vivre. Alors que si ça se trouve, et il paraît d'ailleurs que c'est la cause la plus courante des migraines passagères, vous venez juste d'arrêter de boire du café, et c'est simplement le manque de caféine qui dilate les vaisseaux sanguins de votre crâne et déchaîne votre mal de tête. Cet exemple, cité dans la revue Cerveau et Psycho, est apparemment des plus courants et amplifié par le fonctionnement même d'Internet. Il y a sur la toile beaucoup plus de sites consacrés aux tumeurs au cerveau qu'aux céphalées dues au manque de caféine. Donc quand vous surfez, vous avez évidemment beaucoup plus de chances de tomber sur ces sites-là. Alors de là à dire qu'Internet favorise l'hypochondrie et la cyberchondrie, les maladies imaginaires, en un mot, il n'y a qu'un pas que nos chercheurs franchissent allègrement en proposant aussi un traitement, modifier le fonctionnement même des moteurs de recherche afin qu'ils n'entraînent pas systématiquement vers les pathologies les plus graves. Mais vu que c'est pas encore gagné, nous on vous conseillerait plutôt de limiter les consultations sur le net et peut-être pourquoi pas de vous remettre au café.
Mais non, on n'est pas malade, c'est Micro-Méga, l'actualité scientifique, un voyage dans l'univers. On se retrouve dans quelques instants, juste après la synthèse de l'actualité sur RFI.